Look, Bumble knows you're exhausted by dating. All the, must not take yourself too seriously, and 6-1 since that matters, and what do I even say other than, hey? Well, that's why they're introducing an all-new Bumble, with exciting features to make compatibility easier, starting the chat better, and dating safer. They've changed, so you don't have to. Download the new Bumble now.
Après une longue journée de travail, Stanisław enlève le stéthoscope de son cou. Un soupir s'échappe de sa bouche. Il est épuisé. D'un pas fatigué, il quitte la petite pièce qui lui sert de cabinet pour aller dans son salon. Il avance lentement dans le couloir éclairé par la lueur tamisée des lampes. Le bruit du crépitement du feu dans la cheminée et l'odeur de la soupe le revigorent instantanément. Arrivé dans la salle à manger, il retrouve sa femme.
« Elle ne veut pas dormir avant de te dire bonne nuit »,
murmure-t-elle doucement. Stanisław esquisse un sourire fatigué. Il s'approche d'elle et la prend dans ses bras quelques instants. Puis il se dirige vers la chambre de sa fille de 6 ans. Là, emmitouflée dans sa couverture, elle prend un air boudeur.
« Papa, pourquoi tu finis si tard ?»
Stanisław s'assoit au bord du lit et lui explique qu'il aimerait bien faire autrement, mais il se doit de soigner tous les malades qui viennent dans son cabinet. Curieuse, Irena questionne.
« Mais pourquoi, papa ?»
Avec un rire léger, Stanisław répond « Et si je ne le fais pas, qui prendra soin des malades ?» Mais Irena, dans son innocence, réplique que chacun pourrait se soigner seul. Stanisław caresse tendrement les cheveux de sa fille et plonge son regard dans le sien.
« Écoute, ma chérie, » dit-il avec douceur, « quand tu vois une personne se noyer, tu dois essayer de la sauver, même si tu ne sais pas nager. Peu importe sa religion ou sa nationalité, c'est le devoir d'un être humain envers un autre. »
Irena hoche la tête, une lueur de compréhension dans ses yeux. Stanisław continue.
C'est comme ça que je vois mon travail, Irena. Et même si je suis fatiguée, même si c'est déjà très tard, je ne peux pas les ignorer.
Il se rapproche de sa fille et la prend dans ses bras.
Et un jour, toi aussi, tu trouveras ta façon d'aider, de tendre la main à ceux qui en ont besoin. C'est ce que signifie être une bonne personne.
Une promesse non dite se forme entre le père et sa fille. Un engagement qui, au fil du temps, orientera Irena vers des actes de bravoure et d'humanité extraordinaires. Bonjour, je suis Andrea Brusque, bienvenue dans Les Fabuleux Destins. Cet épisode est le premier que nous consacrons à Irena Sendler, l'une des plus grandes figures de la Résistance. Cette Polonaise a réussi l'exploit de sauver 2500 enfants juifs de la barbarie nazie. Aujourd'hui, je vous parlerai de sa jeunesse et du début de la Seconde Guerre mondiale. Irena Zizanowska est née le 15 février 1910 à Varsovie, en Pologne. Ses parents, Stanisław et Janina, sont de confession catholique. Irena grandit à Otwock, ville connue pour sa grande communauté juive. C'est là-bas que la jeune femme s'imprègne des convictions humanitaires de son père. Stanisław est un médecin dévoué. Il traite sans distinction les pauvres et les marginaux, y compris les juifs. Dans une Pologne marquée par un antisémitisme rampant, il est le seul médecin à ouvrir sa porte à cette communauté ostracisée. C'est dans ce contexte d'ouverture et de partage que grandit Irena. Élevée parmi des enfants de confession juive, à seulement 6 ans, elle arrive à parler le yiddish.
Alors âgée de 7 ans, Irena vit un drame. Son père meurt du typhus. Irena est bouleversée, mais à cet instant, elle se fait la promesse de marcher dans les pas de son père. Touchée par le dévouement de Stanisław, la communauté juive propose un soutien financier à la famille endeuillée. Cependant, Janina, fidèle aux principes de son défunt mari, refuse cette aide. Elle décide de déménager avec sa fille pour commencer un nouveau chapitre de leur vie. Elle quitte Odvox pour Piotr Kuf. Là-bas, Irena rencontre son futur mari, Mieczysław Sandler. En 1927, Irena est admise à l'université de Varsovie. Son rêve, devenir avocate. Mais à cette époque, le droit n'est pas un domaine pour les femmes. Après plusieurs mois de harcèlement de la part de ses professeurs, Irena en a assez. Elle refuse de continuer à subir ces stéréotypes grotesques, elle change de formation. Déterminée à vouloir faire un métier utile à la société, elle décide de s'engager dans des études de sciences humaines et sociales. Mais alors qu'Irena semble avoir trouvé sa voie, les idées néfastes d'un voisin belliqueux commencent à se répandre. La montée de l'antisémitisme gagne du terrain et les juifs de l'université se voient discriminés. Pour Irena, c'est inadmissible, il faut se rebeller. Dans l'enceinte de l'université, Irena observe avec indignation les rangées séparées réservées aux étudiants juifs de son amphithéâtre. Chaque jour, la vue de ses camarades contraints à s'asseoir à part ravive en elle un sentiment de révolte. Aujourd'hui, Irena en a marre de voir ses amis se faire persécuter. Alors, avec d'autres camarades, elle décide de protester. Lorsqu'un professeur entre dans la salle, au lieu de s'asseoir, ils restent tous debout. Des murmures se répandent parmi les autres étudiants, certains choqués, d'autres impressionnés. Le professeur, confronté à cette résistance inattendue, est désemparé. Il ne sait pas comment réagir. Irena, cependant, ne s'arrête pas là. Elle prend sa carte d'étudiant où figure la mention « Arienne » et l'efface. Ce geste symbolique ne passa pas inaperçu et a des conséquences directes. Irena est suspendue de l'université pendant 3 ans. Irena ne se laisse pas abattre, elle sait que ce qu'elle a fait était juste. Et si elle devait, elle le recommencerait. Maintenant qu'elle a du temps libre, qu'est-ce qu'elle va bien pouvoir faire ? Irena pense à son père. Elle doit aider son prochain, elle décide de chercher du travail dans l'aide sociale. Malheureusement, les recommandations universitaires lui sont défavorables. Elle est qualifiée de radicale et de conflictuelle, ce qui rend la tâche compliquée. Mais en 1935, grâce à une professeure, Elena Radlinska, elle décroche un poste aux services sociaux de Varsovie. Irena travaille sur le terrain. Elle parcourt les quartiers défavorisés de Varsovie et s'occupe principalement de jeunes femmes et de mères célibataires. Elle les aide à prévenir les maladies vénériennes et à éviter les grossesses non désirées. Durant ces années, Irena se marie avec Mieczysław Sandler. Mais cet amour est brutalement interrompu par un événement qui va plonger le pays dans l'horreur. Le 1er septembre 1939, l'Allemagne envahit la Pologne. La Seconde Guerre mondiale commence. Avant de continuer cet épisode, nous voulions vous remercier pour votre écoute. Si vous voulez continuer de nous soutenir, abonnez-vous à la chaîne Bababam Plus sur Apple Podcasts. Cela vous permettra une écoute en avant-première et sans interruption. Ou bien écoutez ce message de notre partenaire sans qui ce podcast ne pourrait exister. On se retrouve tout de suite après. Devant les grilles du ghetto, Irena, le cœur battant, serre un laissez-passer entre ses doigts. Son visage pâle et crispé trahit sa terreur. Elle présente son papier à l'officier SS, qui la toise avec mépris. Irena tente un sourire, espérant adoucir cet homme austère. « Qu'est-ce que vous faites ici ?» lui lance-t-il d'un ton cinglant. Irena bégaye, les mots peinent à sortir de sa bouche. « Je viens pour empêcher la propagation du typhus. » L'officier SS fronce les sourcils, le regard dégoûté. Sans un mot, il lui rend son laissez-passer et ouvre la grille. Irena pénètre dans le ghetto. Ses premiers pas la plongent dans l'horreur. Les rues étroites et tortueuses sont remplies de silhouettes épuisées, habillées de haillons. Leurs visages sont marqués, leurs joues sont creusées. Autour d'elle, elle voit plein de campements de fortune, des familles entières agglutinées les unes sur les autres. Son estomac se noue douloureusement à la vue des hommes et des femmes, épaules tombantes, les yeux hagards, qui attendent un bol de soupe. Leur unique repas de la journée. À quelques mètres d'elle, elle voit un petit garçon. Il regarde le sol. À ses pieds, elle voit un trognon de pain. Elle s'avance vers lui et cherche à savoir où est sa famille. Le petit garçon ne répond pas. Ses yeux sont somnolents. Irena, dévastée, lui offre son manteau pour tenter de le protéger du froid glacial. Le cœur lourd, elle poursuit son chemin. À mesure que les heures passent, Irena termine sa mission de vaccination. Elle revient près de l'enfant. Ce dernier est allongé au sol. Irena se précipite vers lui. Elle le prend dans ses bras. Mais c'est trop tard. Le petit garçon est déjà mort. Irena est anéantie. Elle réfléchit. Pour elle, c'est hors de question de laisser les enfants vivre dans de telles conditions. Elle sait qu'il faut trouver un plan pour les sortir de cet enfer. Et elle est prête à tout pour leur offrir un espoir de vie meilleure. Dès le début de l'occupation, les nazis ont exclu les juifs de la société. Ils leur ont confisqué leur entreprise et interdit de nombreux métiers. Les juifs ne pouvaient plus aller dans certains endroits et devaient porter un brassard blanc avec une étoile bleue. Très vite, la majorité d'entre eux ont commencé à vivre dans la misère. Alors que leurs conditions de vie sont déjà désastreuses, le 16 novembre 1940, l'horreur ne fait que s'amplifier. Les juifs de Varsovie sont transférés de force à l'intérieur d'un ghetto construit par les nazis. Plus de 400 000 personnes se retrouvent confinées dans 300 hectares. Le ghetto devient vite insalubre et le typhus se répand. Les officiers nazis, qui ont une peur panique de l'épidémie, font appel aux soignants polonais pour éradiquer la maladie. En tant que membre du département de la santé, Irena décide d'aller aider dans le ghetto. Par solidarité, elle porte le brassard avec l'étoile bleue. Là-bas, Irena retrouve ses amis de l'université, tous engagés dans le réseau de résistance juive. Ensemble, ils organisent des cours clandestins, des soupes populaires. Ils soignent les malades et s'occupent des orphelins. Irena s'efforce d'apporter de l'aide. Elle introduit des médicaments, des vêtements et d'autres fournitures essentielles. Depuis quelques semaines, les nazis placardent des affiches sur les murs de la ville. Toute action menée par le groupe d'Irena implique un énorme risque. Car à partir de 1941, aider une personne juive est puni de mort, non seulement pour le coupable, mais aussi pour toute sa famille et ses proches. Mais Irena n'en a rien à faire de ces menaces. Elle compte bien faire tout ce qu'elle peut pour aider. Elle est inquiète pour les enfants juifs dans le ghetto. En particulier pour les orphelins livrés à eux-mêmes dans les rues. Leur survie y est quasi impossible en raison de la faim, des maladies et des déportations. Irena réfléchit, il faut qu'elle trouve une solution. Soudain, une idée lui vient pour parvenir à les extraire de cet enfer, puis les cacher au sein de groupes résistants. Mais pour réussir cet exploit, elle va devoir convaincre les parents juifs de se séparer de leurs enfants. Dans une pièce faiblement éclairée par une ampoule qui oscille doucement, les ombres se projettent sur les murs, défraîchis et tachés par l'humidité. Irena se tient là, debout, les mains tremblantes. Autour d'elle, des parents juifs, leurs visages creusés par l'angoisse, la fixent. Irena respire profondément avant de leur faire part de son plan, presque impensable. « Il faut que vos enfants soient élevés ailleurs qu'ici, le temps de la guerre », dit-elle d'une voix ferme. Des protestations s'élèvent immédiatement teintées d'incrédulité. « Comment pouvez-vous suggérer une telle chose ?» dit une mère, les larmes aux yeux. Pour Irena, c'est la seule voie possible pour assurer la survie de cette jeunesse innocente. « Pouvez-vous nous garantir qu'ils vivront ?» La question posée par une mère aux yeux hagards fait écho dans la pièce. Le cœur d'Irena se serre face à cette interrogation. Elle ne peut offrir aucune garantie, aucune certitude. Seulement un mince espoir. Non, mais je sais que les laisser ici, c'est les condamner. Partir avec moi, c'est leur donner une chance de survie, répond-elle. Finalement, un couple se lève avec résignation. Le père tient la main de sa femme, qui serre contre elle leur enfant endormi.
Nous vous confions notre fils.
D'autres suivent, un par un. Des larmes coulent silencieusement sur leurs joues. Irena les réconforte, leur assure que leurs enfants seront pris en charge par des membres de confiance. Ils seront aimés et protégés. Mais aucun mot ne peut véritablement apaiser le cœur meurtri de ses parents. Pour Irena, il est temps de sauver les enfants du ghetto de Varsovie.
Avant de continuer cet épisode, nous voulions vous remercier pour votre écoute. Si vous voulez continuer de nous soutenir, abonnez-vous à la chaîne Bababam Plus sur Apple Podcasts. Cela vous permettra une écoute en avant-première et sans interruption. Ou bien écoutez ce message de notre partenaire sans qui ce podcast ne pourrait exister. On se retrouve tout de suite après.
Nous sommes en 1942, dans le ghetto de Varsovie. Elzbieta, à peine âgée de 5 mois, gazouille dans les bras de sa mère. Cette dernière essaie de retenir ses larmes. Elle embrasse sa fille et lui chante une petite comptine. Irena injecte un narcotique à Elzbieta. Le médicament agit rapidement, l'enfant s'endort paisiblement. Sa mère se met à pleurer. Elle ne veut pas laisser Irena la prendre dans ses bras. Elle veut pouvoir profiter d'elle encore quelques instants. Irena essaie de la rassurer, mais il faut se dépêcher pour ne pas qu'elle se fasse repérer par les nazis qui s'occupent du camp. Alors, la mère place délicatement sa fille dans une petite boîte perforée et cache une cuillère en argent dans ses vêtements. Dessus, on peut lire le nom de Zunia, le surnom affectueux d'Elzbieta, et sa date de naissance, le 5 janvier 1942. Elle espère que grâce à cet objet, elle pourra identifier sa fille une fois la guerre terminée. Irena referme la boîte et la dissimule parmi un chargement de briques. Elle ajoute des pavés par-dessus. Plus rien ne laisse imaginer qu'un bébé est caché là-dedans. Irena prend la mère dans ses bras et fait signe au conducteur de partir. Ce dernier prend la charrette tirée par un cheval et s'éloigne lentement du ghetto pour ne pas éveiller les soupçons. Le trajet est silencieux, à chaque contrôle, à chaque regard des soldats, le risque d'être découvert plane. Depuis quelque temps, des rumeurs alarmantes circulent. De nombreuses familles vont bientôt être déportées vers les soi-disant camps de travail. Alors il va falloir faire vite, très vite. La tâche est périlleuse, pour beaucoup de raisons. D'abord, les enfants, souvent incapables de comprendre la gravité de la situation, rendent le départ compliqué. Quand Irena essaie de les prendre avec elle, certains se mettent à hurler de panique et à s'accrocher désespérément à leurs parents. Le problème, c'est qu'ils risquent de se faire repérer par les nazis. Puis il faut trouver des familles d'accueil, prêtes à mourir pour la cause. Car cacher un enfant juif est une décision lourde de conséquences. Si les Allemands découvrent ces actes, toute la famille se verrait exécutée. Ensuite, il y a la barrière de la langue, car la plupart des enfants ne parlent que le yiddish ou l'allemand juif. Sauf que s'ils veulent éviter de se faire repérer à l'extérieur, il faut apprendre le polonais. Puis il y a tout le reste. Malgré ces difficultés, Irena se trouve une équipe. Puis finit par trouver des familles prêtes à courir ce risque. Il est temps qu'Irina mette son plan en action. Elle ajuste son uniforme et prépare son laissez-passer. Elle jette un regard déterminé vers l'ambulance stationnée. À l'intérieur du véhicule, des enfants attendent. Certains pleurent, d'autres tremblent de peur. Irina s'approche d'eux, elle murmure des mots de réconfort, ajuste une couverture ici, une fausse perfusion là. Le moment est venu. Les moteurs de l'ambulance grondent. Irina prend place au devant du véhicule, elle essaie de cacher son appréhension. Au checkpoint, un soldat nazi s'approche. L'œil méfiant. Il évoque son intention de fouiller l'ambulance. Avec un calme fin, Irina s'interpose. Attention, ce véhicule transporte des patients atteints de symptômes graves de typhus, hautement contagieux. Ces mots, choisis avec soin, font leur effet. Le soldat hésitant recule. Il ne veut prendre aucun risque et préfère les laisser passer. L'ambulance sort du ghetto. Irina souffle de soulagement. La mission est réussie. Cette tactique, bien qu'efficace au début, attire rapidement l'attention. Pour éviter l'éveil des soupçons, l'équipe d'Irina diversifie ses méthodes d'évasion. Des sacs de légumes, des poubelles, des boîtes à outils, voire des cercueils, sont transformés en moyens de fuite. Pour les enfants plus âgés, les égouts et les passages souterrains du ghetto deviennent des voies d'évasion secrètes. Une fois en lieu sûr, ces enfants sont placés dans des familles d'accueil et adoptent de nouvelles identités. Les enfants reçoivent souvent des noms chrétiens et apprennent des prières chrétiennes pour éviter d'être repérés par les Allemands. Cette opération de sauvetage dans une ville dominée par les nazis est extrêmement périlleuse, mais Irina et ses complices sont résolus. Le réseau de résistance ne se contente pas de sauver ses enfants. Ils préservent aussi leur identité. Certains n'ont que 6 mois et ne se souviendront de rien après la guerre. Pour garantir leur capacité à retrouver leur famille, Irina note sur des feuilles de papier à cigarette les noms et le lieu de résidence de chaque enfant caché. Puis elle cache ses petits papiers dans des bocaux. Pendant la Seconde Guerre mondiale, une organisation clandestine s'est créée. Son nom, la Commission Gégota. Son but, aider la population juive persécutée. L'organisation finit par entendre parler de l'œuvre d'Irina. Reconnaissant l'impact crucial de ses efforts, il décide de l'aider financièrement. Grâce à ça, elle va pouvoir étendre son action et sauver plus d'enfants. Avec le temps, la petite équipe a une organisation bien rodée. Irina peut compter sur le soutien infaillible de ses collègues et de ses amis. Comme par exemple son ami Adam, ensemble, ils parviennent à exfiltrer des centaines d'enfants. Sous la direction d'Irina, le réseau s'étoffe, comptant désormais une 20aine de membres dévoués. Chacun d'entre eux est conscient du risque immense qu'ils prennent, mais la détermination de sauver des vies les pousse à continuer. En juillet 1942, la situation devient encore plus critique. Les nazis intensifient leurs efforts de déportation. Ils envoient quotidiennement des milliers de personnes vers les camps de la mort à l'est. Face à cette nouvelle vague de déportation imminente, le réseau d'Irina doit redoubler d'efforts pour agir rapidement et efficacement. Cependant, les actes héroïques d'Irina ne passent pas inaperçus. Plus Irina aide de famille, plus elle se fait remarquer au sein du camp. Le danger se rapproche inexorablement. Certaines personnes commencent à parler de ses exploits sans prendre garde au secret. Suite à une dénonciation, les nazis découvrent une partie des activités d'Irina et de son équipe. En octobre 1943, la Gestapo frappe à sa porte. La perspective d'une exécution semble inévitable.
Avant de continuer cet épisode, nous voulions vous remercier pour votre écoute. Si vous voulez continuer de nous soutenir, abonnez-vous à la chaîne Bababam Plus sur Apple Podcasts. Cela vous permettra une écoute en avant-première et sans interruption.
ou bien écouter ce message de notre partenaire sans qui ce podcast ne pourrait exister. On se retrouve tout de suite après.
Au cœur de la nuit du 19 octobre, un silence oppressant enveloppe le quartier. Soudain, il est brisé par le grondement sinistre des bottes de la Gestapo. Irena, son cœur battant la chamade, sent l'adrénaline monter. C'est un moment qu'elle redoute, mais auquel elle s'était préparée. Chaque seconde compte désormais. Vers 3 heures du matin, de violents coups retentissent à la porte. Dans l'urgence, Irena a juste le temps de confier la liste des enfants à sa mère. Avec une rapidité et une discrétion exemplaires, Janina cache la liste dans son corsage. La porte vole en éclats sous les assauts brutaux de la Gestapo. Les 11 policiers se précipitent dans l'appartement et le mettent sans dessus-dessous. Ils cherchent des preuves de la trahison d'Irena. Ils renversent les meubles, éparpillent des papiers, déchirent des matelas. Irena et sa mère restent calmes et stoïques malgré la scène chaotique. Elles savent qu'elles doivent se faire discrètes pour éviter de subir la brutalité connue de ces hommes. Malgré leurs recherches acharnées, les agents ne trouvent aucune preuve tangible. Frustrés mais déterminés, ils se retournent vers Irena, leur regard accusateur et impitoyable. Sans un mot, ils la saisissent brutalement et l'entraînent hors de l'appartement. Irena, résignée, ne montre aucun signe de résistance. Avant de quitter l'appartement, elle regarde sa mère. C'est sûrement la dernière fois qu'elle la voit. Janina s'écroule par terre. Des larmes inondent son regard. Elle aimerait dire à sa fille qu'elle l'aime. Mais aucun mot n'arrive à sortir de sa gorge nouée. Dans les sombres cellules de la Gestapo, Irena Sandler est confrontée à l'une des épreuves les plus cruelles qui existent. Jour après jour, pendant des mois, elle endure une torture insoutenable. Ses bourreaux, déterminés à extraire de précieuses informations, se déchaînent sur elle. Malgré la brutalité incessante et les souffrances atroces, Irena demeure inébranlable dans son silence. Les noms et les adresses des enfants qu'elle a sauvés et des familles qui les hébergent restent un secret bien gardé. Ces tortionnaires, dans leur cruauté, lui infligent des blessures qui laisseront son corps infirme à vie. Ses jambes et ses pieds vont être brisés sous les coups et la torture. Après 3 mois d'incarcération dans la prison de Paviak, Irena quitte la prison, entourée de soldats allemands. Elle est menée, épuisée et meurtrie, vers ce qui doit être son dernier instant. Dans son esprit, un mélange de résignation et de paix, elle se prépare à être enfin libérée de sa souffrance. Mais le destin a d'autres plans pour elle. Alors qu'elle attendait d'être fusillée, un événement inattendu vient bouleverser le cours des choses. Un soldat allemand, sous prétexte d'un interrogatoire supplémentaire, l'emmène loin des autres gardes. Une fois hors de vue, le soldat se tourne vers elle et lui crie en polonais « Fuyez !» Irena saisit cette opportunité miraculeuse et s'échappe dans les ombres de la nuit. Le lendemain, son nom apparaît sur la liste des Polonais exécutés, une ruse destinée à couvrir sa fuite. Sa survie miraculeuse n'est pas un coup du hasard, mais le résultat d'une opération orchestrée par les membres de l'organisation Jegota. Ils avaient réussi à retarder son exécution en soudoyant le soldat qui l'a finalement libéré. Malgré le traumatisme inimaginable qu'elle a subi, Irena Sandler n'a jamais perdu sa détermination à aider les autres. Reprenant son rôle au sein de la commission sous une nouvelle identité, elle continue de se battre pour ceux qui sont dans le besoin. Elle poursuit son travail avec acharnement jusqu'au retrait des Allemands de Varsovie, fuyant devant l'avancée inexorable des troupes soviétiques. À la fin de la guerre, Irena entreprend de ramener les enfants dans leur famille. Pour ça, elle doit d'abord retrouver la liste qui a été enterrée dans un jardin. Cependant, les papiers avec le nom des enfants restent introuvables. Ils sont perdus dans les décombres de la ville dévastée. Refusant de se laisser abattre, Irena et les femmes de son équipe entreprennent la tâche monumentale de reconstituer la liste de mémoire. Jour après jour, nuit après nuit, elles rassemblent pièce par pièce les noms et les histoires des 2500 enfants qu'elles ont sauvés. Mais malheureusement, la plupart de ces enfants ont perdu leur famille dans les camps de concentration ou ont disparu dans les méandres de la guerre. Après la guerre, Irena se consacre à la création de maisons de retraite, d'orphelinats et de services d'urgence pour enfants. Son engagement envers le travail social à Varsovie reste intact. En raison du système communiste extrême qui règne alors en Pologne, les événements liés aux Juifs sont passés sous silence. Et le travail d'Irena et de son équipe tombe dans l'oubli. Ce n'est que vers la fin des années 1990 que son histoire remarquable commence à être redécouverte. Grâce à une petite pièce de théâtre présentée par un groupe de théâtre de jeunes Américains intitulée « Life in a Jar ». Cette pièce de théâtre, basée sur les accomplissements héroïques d'Irena, révèle au monde son histoire extraordinaire. Le courage de cette femme qui a tout risqué pour sauver des vies innocentes lui a valu le surnom d'Ange de Varsovie. Malgré cette reconnaissance internationale et de nombreux éloges, Irena Sandler reste humble et modeste. Elle ne se considère pas comme une héroïne. Elle est plutôt hantée par un sentiment de culpabilité et de regret. J'aurais pu faire plus. Reconnaissant ses contributions extraordinaires, le président de la République de Pologne de l'époque, Aleksander Zianewski, lui décerne la plus haute distinction civile du pays. Il la nomme Dame de l'Ordre de l'Aigle Blanc. À cette occasion, Irena est accompagnée par sa famille et par Elzbieta Fikowska, la petite fille à la cuillère d'argent. Et finalement, le 12 mai 2008, Irena Sandler nous quitte à l'âge de 98 ans. Elle repose maintenant dans le cimetière de Varsovie, mais son héritage perdure bien au-delà de sa tombe. Merci d'avoir écouté cet épisode des Fabuleux Destins, écrit par Clémence Setti, réalisé par Amaury Breton. En attendant, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires et des étoiles sur vos applis de podcast préférés.